Même audio? Une mémoire sonore? Les radios du CRLO, le collectif des radios libres d'Occitanie, en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, vous propose un magazine consacré à l'association Espoir 31.
Olivier Dupuis, directeur général Association Espoir.
Blandine Host, chef de service Association Espoir.
L'association existe depuis bientôt 50 ans et on sera ravis de fêter ses 50 années en 2028. L'enjeu, en tout cas sur les valeurs de l'association Espoir, c'est de pouvoir accueillir, accompagner, héberger toutes les personnes en grande vulnérabilité, et notamment les couples, les femmes avec enfants. Et au-delà de ça, dans tous nos dispositifs, depuis quelques années, l'association Espoir s'est enrichie avec un nouveau dispositif qui s'appelle Espoir Tigane Solidarité, qui a un axe plus spécifique par rapport au public qui sont sur les aires des campements des gens du voyage ou dans les bidonvilles.
La spécificité du centre social Espoir Tigane Solidarité, c'est d'accompagner donc des voyageurs, qu'on appelle administrativement gens du voyage, et des personnes qui vivent en habitat précaire, donc essentiellement des Roms, qui vivent donc en bidonville et en squat aussi, puisque effectivement on a des financements pour accompagner spécifiquement ces publics-là. Après, au niveau de nos services, on déploie un ensemble d'activités au sein du centre social pour accompagner ces publics avec différentes entrées, que ce soit l'insertion professionnelle, la santé, l'accès aux droits. Et on peut être dans des propositions donc, d'accompagnement où on va vers les publics. Donc on se déplace, nous, directement au plus près d'eux, sur leur lieu de vie. Donc ça peut être directement en cité pour les personnes qui sont sédentaires. Ça peut être sur des aires d'accueil, des gens du voyage. Et ça peut être dans des habitats précaires, que ce soit des squats ou des campements. Mais effectivement, on est aussi un lieu d'accueil. Et donc, on accueille ici, puisque on a un service d'accueil et de domiciliation et d'accompagnement aussi de bénéficiaires du RSA. Donc, on va vers les publics, mais on les reçoit aussi dans nos murs.
À la fois, il y a un pôle d'hébergement d'urgence, donc où il y a une réponse à des situations d'urgence et des orientations qui sont faites en ce sens, où l'accompagnement va certes passer notamment par une prise en charge avec de l'hébergement, mais aussi un accompagnement social global, puisqu'il y a autant de situations et de problématiques que de personnes accompagnées. Donc ça suppose de pouvoir trouver les justes moyens de cet accompagnement. C'est aussi un pôle d'hébergement d'insertion et de logement adapté, donc qui va être sur des durées souvent plus importante pour un accompagnement qui va se traduire aussi sur une insertion socio-professionnelle. La santé, évidemment, est un point très, très important sur les publics que nous accompagnons. Mais là aussi, il y a autant de problématiques que de personnes accompagnées, d'où l'importance d'équipes pluridisciplinaires en capacité d'apporter une réponse globale. Et puis, ce qui est important, puisqu'on parlait notamment et précisément du pôle spécifique Espoir Tsigane Solidarité, c'est de se dire qu'indépendamment des conditions de vie, des lieux de vie des personnes, les besoins peuvent être similaires avec des problématiques qu'on peut rencontrer sur le type de pôle, mais pour lequel il y a des réponses plus spécifiques à apporter, d'où la singularité d'Espoir Tsigane Solidarité, pour à la fois aller vers ces publics-là dans les lieux où ils vivent, mais aussi pouvoir être en mesure de les accompagner sur site au sein des locaux d'ETS.
Et d'ajouter aussi que même si ce sont des actions spécifiques en direction de ces publics, hein, puisqu'on est quand même plutôt dans des process d'accompagnement global, même s'il y a des actions plus ciblées, par exemple sur la scolarité, sur la santé, sur l'accès aux droits. Mais globalement, on balaye un ensemble de domaines via tous ces dispositifs-là. Notre objectif, c'est in fine de raccrocher quand même les personnes avec les services de droit commun. C'est pas de faire juste de la spécificité et de cliver finalement. L'idée, c'est effectivement de proposer, de créer des ponts en fait avec l'ensemble des services de droit commun pour que ces personnes-là puissent s'inscrire dans la citoyenneté comme n'importe quel autre citoyen.
Vous disposez de salariés, de bénévoles? Comment vous fonctionnez sur cet aspect?
Les bénévoles qui peuvent intervenir au sein de l'association Espoir ne vont pas intervenir sur tous les dispositifs, ni auprès des publics directement, ou dans un cadre qui est déjà prévu, où ils sont accompagnés. On va être sur des dispositifs, notamment au sein de l'association, tels que le Grenier, qui est un bric-à-brac, où l'ensemble des Toulousains sont en droit de venir trouver le bonheur le lundi, notamment pour acheter des bibelots, puisqu'on offre une seconde vie à des objets parfois oubliés dans les placards et dans les greniers. Après, l'accompagnement des personnes C'est une relation de confiance qu'il faut établir et qui doit être basée aussi avec une professionnalisation des acteurs, à la fois pluridisciplinaire, parce qu'il faut qu'on puisse offrir une vaste gamme de réponses aux besoins qu'on peut observer, mais aussi aux attentes et aux demandes qui sont exprimées. C'est une responsabilité forte. On fait appel à des psychologues, on va avoir des animateurs, on va avoir des techniciens en intervention sociale et familiale, des moniteurs éducateurs, des éducateurs spécialisés, des CESF, des assistants sociaux. Enfin, c'est important d'avoir des regards multiples dans ces champs-là. Il y a un point sanitaire qui est très important et qui a supposé en tout cas que l'association Espoir puisse avoir recours à des professionnels de santé. On a effectivement aussi des infirmières. Sur ce pôle en particulier, vu qu'il y a énormément d'actions, il y a aussi énormément de financeurs donc qui vont intervenir à différents titres pour financer une action. Principalement, sans oublier personne, on retiendra des financements parce qu'il y a quand même des missions qui sont régaliennes, qui sont celles pour partie des services de l'État, mais aussi Toulouse Métropole, notamment sur les actions où c'est une compétence de Toulouse Métropole, en tous les cas, d'apporter des réponses sociales auprès des publics. Ça peut être de la municipalité aussi, tout simplement, de la caisse d'allocation familiale, puisque par exemple sur ETS, c'est un centre social. Mais par rapport à d'autres activités, puisqu'elles sont variées et multiples au sein de l'association Espoir, ça peut être le conseil départemental, puisqu'il y a aussi un centre parental qui existe au sein de l'association Espoir, l'agence régionale de santé, ouais, il faut en oublier aucun. Donc c'est un composite de financement parce qu'on est sur des sujets qui sont transverses et finalement qui interrogent et qui intéressent un grand nombre d'administrations et qui participent à leur niveau, en fonction de leurs moyens aussi, pour essayer que nous, de notre côté, en ayant recueilli l'ensemble de ces subventions, on puisse servir en tous les cas des prestations de qualité.
On est dans une relative urgence de situation puisqu'il y a quand même un contexte d'illégalité, voilà, avec des personnes qui sont installées illicitement sur un lieu de vie et l'enjeu d'une procédure légale, pour le coup, d'expulsion en fait des personnes qui vivent sur ce site. Ça rend les choses complexes, c'est-à-dire que ça va aussi impacter la temporalité de l'accompagnement qui est pas toujours en phase avec la temporalité des personnes dans leur capacité à mettre en œuvre et à s'approprier aussi l'aide qui leur est proposée et les démarches qu'elles doivent mettre en œuvre. Puisque l'objectif du travailleur social, c'est pas de faire à la place des personnes, c'est que les personnes puissent aussi s'autonomiser et s'approprier cette démarche pour sortir aussi de cette vie précaire. L'idée, c'est de pouvoir faire converger les enjeux en fait, respectifs de chacune des parties en présence, que ce soit les services de l'État, le propriétaire du terrain, les personnes qui sont installées là illicitement, et aussi le travailleur social qui accompagne au quotidien ces ménages, pour essayer de trouver des ajustements réciproques qui permettent, in fine, d'aller et de tendre le plus possible vers une résorption satisfaisante. Après, du 100% dans un contexte actuel, la difficulté, elle est là aussi, c'est que aujourd'hui, les services de droit commun sont saturés en termes de propositions et de moyens, en fait, pour reloger des personnes qu'il faudrait mettre à l'abri. Et ça ne concerne pas que les gens qui vivent en bidonville. Le nombre de personnes qui sont aujourd'hui à la rue, quel que soit leur statut, est très important, notamment dans les métropoles. Et l'offre en hébergement d'urgence ou d'insertion est largement insuffisante. Donc, dans l'objectif de mener une politique de résorption, il faut donner les moyens de cette ambition. Et aujourd'hui, en effet, ça, finalement, c'est un des enjeux les plus complexes, je pense, pour vraiment arriver aux objectifs qui ont été préalablement définis.
À cet égard, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez en partenariat avec les pouvoirs publics, avec des constats partagés ?
Oui, je pense que les constats sont partagés, en partenariat et en permanence surtout. Oui. Parce que ce soit sur ces opérations à un moment donné qui sont faites, comme ça a été rapporté par Madame Host, il y a aussi comment on est en capacité d'offrir une perspective durable aux personnes pour pas que la situation se réitère ailleurs, en fait. Et donc, pour pouvoir les inscrire dans les dispositifs de droit commun, ça suppose effectivement, comme ça a été dit, qu'il puisse y avoir un nombre de places, de logements suffisants. Et c'est une difficulté qui est partagée par tout le monde, effectivement, en général sur les métropoles où il y a des tensions très fortes sur le logement.
Sachant que tout ce qui est dispositif existant à l'heure actuelle n'est pas non plus la panacée. Et même s'il y avait un nombre suffisant de places, il y a des dispositifs aujourd'hui tels qu'ils sont conçus qui ne correspondent pas nécessairement à ce que les personnes sont en capacité d'investir. Et c'est vrai que ça reste aussi difficile par rapport au public. Là, si on recentre, il y a quand même... À l'échelle de ces sites d'habitat précaire, une dynamique de mobilité avec des parcours pendulaires, des allers-retours avec le pays d'origine qui viennent créer des césures aussi dans cette dynamique d'accompagnement, des discontinuités. Voilà, pour un ensemble de raisons, hein, que ce soit familiales, des raisons de santé, des raisons administratives, et qui, effectivement, aujourd'hui, ne coïncident pas forcément avec les contraintes qui sont posées dans les dispositifs d'hébergement, qui viennent finalement mettre en difficulté l'inscription dans un parcours que nous, on appelle les parcours hébergement-logement, qui sont un peu des préalables à une insertion durable. Voilà. Et donc, c'est vrai que, y compris, il y a des personnes, ce n'est pas nécessairement ce qu'elles recherchent, une insertion durable sur le territoire français. Ça ne fait pas partie de leur projet. Et c'est vrai que c'est très important, y compris dans les démarches de diagnostic, de savoir aussi quel est l'objectif, qu'est-ce que recherche la personne, indépendamment du fait que voilà, nous, on fait le point sur sa situation, on fait une évaluation sociale. Mais parfois, il y a une demande qui s'exprime, mais qui n'est pas une vraie demande, en fait. C'est une demande de normalité, une demande d'accéder à des conditions de vie plus dignes, plus décentes, mais finalement, qui n'est pas le vrai désir profond de ce que la personne souhaite vraiment pour elle-même. Et aujourd'hui, on atteint aussi des limites où il y a finalement des dispositifs qui ne viendront pas répondre à ça. Parce que en termes de contraintes, en termes de cadre de ce qui est posé, ça ne va pas tenir, en fait, pour les personnes. Donc c'est vrai que c'est... Il y a des enjeux qui sont vraiment très complexes et je pense qu'il faut aussi qu'on se pose. Alors, il y a plein de régions en France, de villes, hein, qui essayent de réfléchir aussi à des solutions intercalaires, des solutions plus alternatives, qui peuvent être aussi des pistes de réflexion à creuser. Enfin, on le voit, hein, comme il y a eu des dispositifs pour des grands précaires à la rue, plutôt le profil de l'homme isolé avec des troubles psychiques, où il y a des choses qui ont été proposées dans les dernières années. Et voilà, et moi je suis convaincue qu'effectivement il faut aussi tendre vers des réflexions sur une offre d'habitat alternatif ou une offre alternative d'habitat. Voilà, on peut le tourner dans le sens qu'on veut, mais... En méthodologie, on est aussi sur des hypothèses de travail. Enfin voilà, on n'a pas la prétention d'avoir des solutions toutes faites sur ce qui est le mieux pour conduire aussi ces démarches-là. On reste modeste aussi, on conduit des actions, mais on est preneur aussi d'échanges, qu'ils soient avec les résidents de ces lieux de vie, avec d'autres opérateurs qui interviennent et qui conduisent des actions sur ces habitats précaires, les institutions qui interviennent de près ou de loin dans ces démarches-là. Pour faire avancer, enfin, l'idée, c'est aussi de rechercher ce qui fonctionne. En tout cas, quand on conduit ces démarches, c'est pas, comme je disais, du 100% en termes de résultats, mais c'est pas non plus du 100% en termes de méthodologie, quoi. Il n'y a pas de recette. C'est aussi des choses qui s'appliquent à des données de territoire. Et une démarche, elle peut fonctionner dans un territoire, mais on change de ville, on change de situation, on change de contexte politique et ça peut être vraiment tout autre. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de rester ouvert sur tout ce qui est possible et imaginable, en fait, pour favoriser ce travail dans la recherche et les réflexions pour que les personnes accèdent à des conditions de vie plus dignes, quoi.
Ça suppose entre tous, en tout cas entre tous les acteurs, plus de coordination, de communication, une réactivité et des moyens justement pour mener cette activité, et puis aussi l'ambition et l'innovation qu'on veut pour essayer de trouver des solutions alternatives complémentaires à celles qui existent déjà.
Qu'est-ce qui vous a amené à venir en France et en particulier à Toulouse? C'était en quelle année?
En 2009.
Et qu'est-ce qui vous a amené à venir?
C'est un problème de particulier. Ma femme, c'est malade.
Vous aviez combien d'enfants?
4. Moi, j'arrive en 2009. Après, en 2010, moi, j'ai cherché là les enfants de la Roumanie. En 2010, j'arrive ici à 3 les enfants. Que mon mari est décédé de dialyse. En 2008, il est décédé. Moi, j'arrive ici. Moi, je ne suis pas partie de la Roumanie. Moi, je reste ici, la France. parce que c'est très difficile, et rien des familles là-bas. C'est moi, là, les enfants, moi je reste ici, la France.
Eu când am venit prima dată la Toulouse, am ajuns cu copii, cu nevastă mea, la à côté des stadions.
Quand je suis arrivée la première fois à Toulouse avec mes enfants et ma femme, on s'est installé à côté de stadium.
Am trăit vreo 8 luni de zile cam așa, după ce au trebuit să plecăm în România.
On y est resté 8 mois et puis on a dû rentrer en Roumanie.
După ce o femeie franceză mi-a luat un apartament să stau eu cu copii și cu nevastă mea să continui tratamentul.
Après, une dame française nous a prêté un appartement pour que j'y vive avec ma femme et mes enfants.
Și am trăit acolo 5 ani în același apartament.
On a vécu 5 ans dans cet appartement.
După ce muierea a decedat și s-au schimbat toate problemele.
Et après, ma femme a décédé et tout a basculé. On a eu beaucoup de difficultés.
După ce aia, am stat pe afară și am ajuns și la Atlanta cu copiii să stăm pe afară și așa mai departe. Tot mai greu a fost. Acum, de câteva luni, datorită la SPA, mi-a găsit un apartament, de mi-a dat un apartament și acum stăm în apartament, avem un apartament.
Après, on a vécu un moment à la rue et finalement on est arrivé dans le campement d'Atlanta. Et par la suite, on a été aidé par l'association Espoir qui nous a trouvé un appartement.
Da, am venit din România cu copii.
Je suis venue de Roumanie avec mes enfants.
Un francez, un bătrân, mi-a acordat un atestation d'hébergement ca să stau cu copiii la el să mi bage la școală.
Un monsieur nous a aidé, un français, nous a fait une attestation d'hébergement et nous a aidé dans les démarches pour inscrire les enfants à l'école.
Am trăit 5 ani de zile la persoana aceasta pe urmă decedat.
Cette personne nous a hébergé pendant 5 ans et ensuite il est décédé.
Am ajuns la caravană în barieră de Paris.
J'ai vécu ensuite dans un campement à côté de la barrière de Paris.
L-am cunoscut pe Ciurar Tarzan, m-am căsătorit cu el.
J'ai connu mon compagnon actuel et nous nous sommes mariés.
Și acum avem un apartament. Sunt fericită pentru apartament că l-am, dar nu sunt fericită în ce zonă stau.
Et maintenant nous avons un appartement. Je suis contente qu'on ait un appartement, mais je ne suis pas contente de la zone où on habite.
M-am îmbolnăvit, am făcut un mic stop cardiac, m-am îmbolnăvit cu capul, am tratament, îs de 2 săptămâni în arrêt maladie.
Je suis tombée malade, j'ai fait un petit arrêt cardiaque, j'ai des problèmes avec la tête.
Din cauza la stres?
À cause du stress.
Într-adevăr, am trăit pe plaț. Au fost condițiile mai grele, dar nu am avut atâta stres, n-am fost așa bolnavă și n-am mâncat atâta frică, sunt neordinită în fiecare noapte.
Les conditions étaient dures dans le campement, mais dans le campement on ne vivait pas dans ce stress.
Le campement, c'est dur când la pluie, când plouă era dur, că se făcea tină și era mizerie, dar în rest condiția o avem ca și în apartament. Că mi-am făcut eu condiții, mi-am făcut cu rigis, mi-am făcut ca acasă mi-am făcut. Poți să-i traduci?
Donc les conditions dans le campement étaient difficiles surtout quand il pleuvait. Mais à part ça, j'avais les mêmes conditions comme dans l'appartement. Donc j'ai aménagé ma baraque, j'ai mis du placo. Donc c'était à peu près pareil.
Într-adevăr că bucuroasă de apartament, pentru că e curățenia, pentru mine contează curățenie, liniște, condițiile care le am, sunt foarte fericită, dar m-am îmbolnăvit de la stres, de la frica ce-o mânc acolo în fiecare seară, să auzi în pușcături, să auzi cum se bat, cum strigă, toată noaptea nu dorm.
Donc les conditions dans l'appartement sont très bonnes, mais c'est surtout le stress causé par les fusillades qui me pose problème.
Să împușcă în fiecare seară, să bate oamenii drogați care vând droguri acolo pe scară, să bate cu poliția, trage cu pistolele, să bat cu scaune, mizerie, pișat, căcat, gunoi, ce să pot să spun că nici nu pot să-mi las geamul deschis.
Donc, et il y a des fusillades et des bagarres chaque soir. Donc, il y a la police qui intervient.
Est-ce que vous avez des projets pour le futur, de trouver du travail, ou vous en avez peut-être déjà?
Nous, le travail. Moi, le travail, l'intérim. Ma femme, le travail, les femmes de ménage, l'hôtel. Déjà, nous, c'est de trouver du travail. N'est pas les cherches de travail. Les cherches, pour moi, un contrat. N'est pas comme moi, travail maintenant intérimaire.
Pour mon mari, c'est difficile un peu. Comme c'est intérim, 2-3 jours travail, une semaine, 2, c'est pas travail. Moi, oui, tous les jours travail. C'est un contrat CDD, c'est temporaire, tous les jours travail. Maintenant, moi, je suis en place un mois demi de gouvernante. Après, moi, je suis tombée malade, moi, j'arrête un peu de travail parce que moi, je l'ai fait un stop cardiaque. À cause de la stress, de la fatigue, comme moi je travaillais, arrive à la maison, pas possible pour je les dormir la nuit, que c'est difficile.
Et vous avez un traitement?
Oui, il y en a des traitements, oui. Je arrête maladie aussi, c'est bon.
Et avec ce traitement, ça va mieux?
Oui, maintenant ça va mieux. Comme c'est avant, ça fait très mal, maintenant ça va mieux.
En fait, quand le campement a dû fermer, donc le couple a été hébergé d'abord à l'hôtel. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup d'options pour trouver un logement qui corresponde aux critères donc de taille de logement par rapport à la composition du ménage, de montant de loyer aussi par rapport à leurs ressources. Et donc nous, on est dans une convention de partenariat avec un organisme HLM. Et effectivement, à ce moment-là, par rapport au délai, il n'y avait pas beaucoup d'options possibles. On sait effectivement que le quartier n'est pas idéal. L'idée, c'était effectivement de pouvoir avoir au moins une première étape, sortir du campement, de cet habitat précaire, avec la perspective d'essayer après d'accéder à un logement qui leur convienne mieux. Donc voilà, là, l'appartement en lui-même convient, mais c'est vraiment la localisation qui est problématique. On le sait, donc le bailleur social aussi est informé. Et donc l'idée, c'est qu'on avance pour voir si effectivement, à terme, il pourrait changer d'appartement, d'environnement.
Pentru asta spune că suntem mulțumiți că datorită lor că ne-au ajutat combla pentru noi să ne caute, că toate asociațiile, datorită la Udrea, că nu știu ce mi-a făcut la dosar, nu vreau să mă accepte, numai Habitatul Luz m-a acceptat ca să-mi dea apartamentul. Și datorită lor, că ei au stat, mi-au plătit și alea cu fianța în față, ei au dat pentru mine.
Nous sommes contents car cette association nous a beaucoup aidés. Ils ont payé la caution pour qu'on puisse s'installer dans l'appartement et ils font beaucoup de démarches pour nous.
Moi aussi, je suis très très contente de leur. Merci beaucoup pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. À cause de leur, nous, il y en a un appartement parce que de la mairie nous refusait partout. Elle fait toutes possibilités pour nous.
Et l'association Espoir 31 continue à vous accompagner?
Oui, tous les jours. Je suis contente.
En quelques années, la situation et les questions autour de ces situations ont grandement évolué favorablement. Et les choses sont menées aujourd'hui avec une attention particulière, on l'a dit, sur l'évaluation sociale, sur les réponses, en termes d'enjeux qu'on puisse faire converger les enjeux de chacun pour essayer de trouver des solutions durables. Et déjà, c'est une forte amélioration. Ensuite, c'est important qu'à partir de toutes les analyses, bilans qui peuvent être faits, c'est qu'à chaque fois, ça soit, et c'est entendu en ce sens aujourd'hui, par les pouvoirs publics et toutes les personnes qui participent et qui soutiennent ces actions, de voir justement qu'est-ce qu'on peut définir de nouveau comme réponse à des situations qui sont parfois amenées à se répéter dans des lieux, mais pas forcément avec les mêmes personnes non plus. Donc je pense que c'est s'assurer en tous les cas que cette question est considérée sous tous ses angles et notamment sous l'angle social, je pense que c'est déjà un résultat qui est très satisfaisant. En tous les cas en termes d'évolution. Ça, c'est un point. Après, sur les aspects, à quel moment on considère que le résultat est positif ou pas, je pense qu'en premier lieu, c'est si les personnes, les familles, les ménages accompagnés, eux-mêmes sont satisfaits des propositions, de l'accompagnement, des orientations qui ont pu se mener, et si elles ont été menées jusqu'à leur terme et qu'elles s'y sont maintenues, ou qu'au contraire, en tout cas, ça a permis d'être un tremplin pour ensuite accéder à autre chose.
C'est vrai que si on prend les choses, une analyse très basique de la situation, on peut se dire, en termes de résultats, est-ce que à l'issue d'une fermeture d'un site, il y a tant de personnes relogées, on pourrait être sur ces taux-là. Après, aujourd'hui, il y a quand même une offre insuffisante en termes de moyens, et donc ça ne peut pas être du 100%, et sachant qu'il y a des personnes, y compris dans ces démarches-là, qui refusent aussi les solutions parce qu'elles ne leur conviennent pas. Ce qui est tout à fait entendable. Hein. Donc, ça peut aussi contribuer à recréer des sites d'habitat précaires après, parce que les personnes, effectivement, sortent de ce site-là, mais vont reconstruire un campement ailleurs, un peu plus loin. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le disait Monsieur Dupuis, il y a une évolution, en tout cas, favorable, y compris qui va dans le sens de la circulaire de 2018 pour favoriser aussi cette politique de résorption des bidonvilles, notamment sur cette partie diagnostic et accompagnement social préalable à la fermeture d'un site. Aujourd'hui, avec les moyens donnés et les possibilités de reloger les personnes, il y a encore du chemin à parcourir. Une évolution majeure que j'estime être vraiment importante aujourd'hui, c'est à minima ce traitement plus humain de la situation pour éviter des évacuations sèches de campements, donc c'est-à-dire une procédure d'expulsion qui va jusqu'à son terme avec reprise du terrain, mais sans que les personnes n'aient pu avoir un suivi, un soutien, un accompagnement pour la recherche d'une solution d'habitat adapté. Voilà, les choses avancent chemin faisant, mais il y a encore une marge de progression réelle.
Les choses progressent, mais ne sont pas encore arrêtées sur une forme définitive. Donc il y a une vraie question sur les moyens alloués et la sécurisation des moyens qui sont faits. Et je pense qu'on est en bonne voie parce que toutes les parties prenantes sont convaincues de l'intérêt du travail qui est mené. Il y a eu une grosse capitalisation qui s'est faite avec le temps, je pense, sur aussi la confiance des personnes qui est nécessaire. Et des publics, notamment, sur le travail qu'on peut leur proposer. Je crois que cette capitalisation, on peut aller au-delà pour en faire quelque chose, toujours dans cette logique d'essayer de trouver la réponse qui puisse satisfaire à tous, dans le respect des personnes, et qui offre là encore des perspectives de vie qui soient dignes. J'ai envie de dire, il faut continuer d'avoir les moyens de le faire, et toujours dans cet esprit de coordination, d'articulation de l'ensemble des partenaires qui sont amenés à travailler sur ces thématiques et sur ces publics-là.
Le collectif des radios libres d'Occitanie vous a présenté l'association Espoir 31. Un grand merci à l'interprète Krina Achetraritei. Pour en savoir plus sur l'association Espoir 31, veuillez visiter leur site www.espoir31.org. www.espoir31.org.
Même audio. Une mémoire sonore.